Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Alors, c'est sans doute l'une des images du week-end, une de ces images qui restera, à tort ou à raison, associée au mouvement des Gilets jaunes. Celle de la stèle du maréchal Juin, détruite à coups de barre de fer par des casseurs. Celle des vitrines brisées, de la place d'Italie saccagée, ou encore celle d'un homme blessé à l'œil par un projectile. Un 53e samedi de manifestation où la violence a pris le pas, en particulier à Paris, sur des revendications qui sont, elles, encore soutenue majoritairement par les Français. C'est devenu une habitude. Plus de manifestations qui ne se terminent par des scènes de casse, plus de mobilisations sans garde à vue, sans déploiement spectaculaire des forces de police. Alors forcément, à la veille du mouvement social du 5 décembre, l'inquiétude s'installe et la polémique politique enfle sur la gestion de ces rassemblements par le gouvernement. Alors pourquoi la violence est devenue indissociable des manifestations? Qu'en pensent les syndicats? Comment et peut-on faire machine arrière sociale dans le piège de la violence? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique à l'Express. Votre hebdomadaire qui titre cette semaine « Paralysé ». Emmanuel Macron avait promis la réforme, il n'ose plus bouger. Enfin, vous venez de publier « Macron sous les masques » aux éditions de l'Observatoire. Raymond Soubi, vous êtes expert en gestion des ressources humaines et de politique sociale. Vous êtes président des sociétés de conseil Alixio et Tadeo. Rappelons que vous avez été conseiller social à l'Élysée de 2007 à 2010. Soazi Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Je rappelle votre livre « L'irrésistible ascension, les dessous d'une présidentielle insensée » aux éditions Flammarion. Enfin, Frédéric Ploquin, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions de sécurité. Je précise ce soir votre dernier livre, « La haine dans les yeux » chez Albin Michel, écrit avec David Lebar. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Les Gilets jaunes, c'est fini, Christophe Barbier?
Non, c'est pas fini. Les différentes formes, les différents avatars du mouvement des Gilets jaunes continuent. La colère sociale authentique des ronds-points ou des campagnes ou cette fameuse France périphérique continue. On l'a encore vu ce week-end, même si évidemment l'anniversaire n'a pas eu le succès qu'ils escomptaient.
Parce que pas de mobilisation.
Pas de mobilisation, et puis je crois un souffle un peu éteint. En partie parce qu'ils ont gagné, ils ont obtenu quand même des milliards d'aides, et puis en partie aussi parce qu'ils se sont découragés, épuisés de samedi en samedi, puis qu'ils ont un petit peu perdu le sens de leur lutte sociale. Il y a un deuxième mouvement des Gilets jaunes qui est quand même très présent, c'est ce qu'on appelle le mouvement des ultra-jaunes, ceux qui ont pris goût à la violence l'hiver dernier et qui pensent qu'il faut continuer la lutte en étant au plus près du combat contre les policiers, du combat contre le système, dans une volonté aussi politique d'essayer de faire tomber toujours Emmanuel Macron.
Ils sont minoritaires.
Ils sont minoritaires, mais ils étaient très minoritaires au tout début du mouvement, et puis forcément les autres se sont découragés, ne veulent plus se mêler à des actions violentes, et ce sont les plus visibles. Et chaque fois, évidemment, ceux-là sont les plus en pointe, d'autant qu'ils arrivent avec le troisième phénomène, qui est un phénomène hors gilet jaune, qui est le phénomène des black blocs ou des violences urbaines classiques. Et ceux-là, c'est ceux qu'on a vus essentiellement place d'Italie, puisqu'il y avait très très peu de couleurs jaunes dans le paysage, beaucoup plus de couleurs noires.
C'est eux qui ont gagné, donc.
En tout cas, ils ont gagné la bataille du terrain, c'est-à-dire la présence sur le terrain. Ils ont réussi à gangréner le mouvement social de l'intérieur. Et maintenant, quand on annonce un samedi de gilets jaunes, on se retrouve avec un samedi de black bloc. Les gilets jaunes, du coup, un peu essoufflés, se disent « Mettons-nous à la remorque des syndicats. Rejoignons ces syndicats que pourtant ils vouaient aux gémonies l'an dernier. » Pour le 5 décembre, est-ce qu'il va y avoir de la même manière une pollution, un parasitage du mouvement du 5 décembre par les plus violents, comme on l'a vu au 1er mai? C'est un risque.
Raymond Soubi, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé ce week-end? On voit bien qu'on a des revendications sociales qui sont encore soutenues majoritairement par les Français, qui portent sur le pouvoir d'achat et l'origine du mouvement des Gilets jaunes, et en même temps, un mouvement qui, on l'a vu encore ce week-end, s'est fait abîmer d'une certaine manière par la violence. Quand vous voyez ces deux jours, qu'est-ce que vous dites? Que le mouvement a du plomb dans l'aile ou qu'il peut repartir?
Le mouvement, je crois, a du plomb dans l'aile depuis beaucoup de temps déjà. Et déjà, il y a un an, en fait, la violence a monté peu à peu dans les manifestations des Gilets jaunes et a pris une telle importance qu'on a vu qu'une partie de l'opinion s'est détachée des Gilets jaunes. Quand vous regardez aujourd'hui les sondages d'opinion portant sur eux, vous voyez qu'une minorité de Français les soutient et plus qu'une minorité, enfin une grosse minorité, donc à eux deux, ça fait à peu près un Français sur deux, a de la sympathie pour eux. Donc c'est plus de la sympathie que du soutien, alors qu'à l'origine du mouvement, c'était plus du soutien que de la sympathie. Mais la violence s'était déjà incrustée l'année dernière dans les manifestations. Et donc, ce qu'on a vu là, ces derniers jours, c'est un remake avec un point encore plus profond dans la moindre participation des Gilets jaunes, parce qu'en fait, il y avait très peu de monde En vérité, objectivement, il y avait très
on
peu
parle de 28 000
de
manifestants, selon les chiffres du ministère
oui,
de l'Intérieur,
28 000
manifestants, 4 700 à Paris.
Qui, généralement, il faut le dire, sont quand même fiables. À quelques nuances près, ils sont quand même fiables. Donc, il y avait beaucoup moins de monde qu'il y en a eu il y a un an. Et même il y a un an, il y en avait beaucoup moins dans la rue qu'il n'y avait encore dans les manifestations. C'était pour prendre une référence récente contre la loi El Khomri, c'est-à-dire à la fin du quinquennat de François Hollande. Et j'ajoute un dernier point qu'expliquait Kélian Barbier, c'est que les Black Blocs qui se joignent aux manifestations et qui en font leur affaire, ce qui est un phénomène qu'on a déjà vu l'année dernière, mais qu'on avait vu les années précédentes, parce que c'est un phénomène qui a déjà plusieurs années. Mmh. Qui a plusieurs années, qui n'est pas nouveau, et qui l'a, en quelque sorte...
Mais qui est devenu systématique.
Qui est devenu systématique, ce qui fait qu'on peut se demander pour les prochaines... Pas pour les grèves, mais pour les manifestations dans la rue le 5 décembre prochain...
On va en parler.
Si le principal risque ne va pas être celui-là.
Et on va en parler, parce que c'est d'abord un risque, évidemment, pour les riverains et pour ceux qui pourraient être exposés à ces violences, les manifestants eux-mêmes, et pour les syndicats qui ne veulent pas se faire voler ce mouvement social. Frédéric Ploquin, sur ce week-end de violence, avec des images auxquelles on s'habitue ou pas, d'ailleurs. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est... Vous avez raison, Raymond Soubi, de dire ça fait longtemps que les Black Blocs, ils existent et qui viennent à la fin des cortèges pour casser. Est-ce qu'on est là dans une forme de renforcement de la violence? Est-ce que c'est de plus en plus violent, Frédéric Ploquin? Ce à quoi sont confrontés, encore une fois, les Gilets jaunes qui étaient là et qui voulaient manifester tranquillement et qui n'ont pas pu manifester, et les forces de l'ordre?
Je crois que cette nébuleuse, elle s'est installée dans le paysage. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on les voyait déjà dans les manifestations, sauf qu'il y a 10 ans, ils se mettaient en queue de cortège. Et puis à la fin, au moment de la dissolution, ils essayaient d'exister. Et là, ils partaient en vrille, ils pétaient des vitrines sur 1, 2, 3 kilomètres. Et la police leur courait après, avec en général, il y a 10 ans, la consigne de ne pas trop s'approcher, de les laisser un peu faire, parce qu'en finalement, à l'époque, on se moquait un peu de la casse. Les assureurs allaient payer derrière. Cette impunité s'est installée pour eux. Ils se sont dit, finalement, peut-être que la rue est à nous. Et de ZAD en squat, de biberonné, notamment à l'idéologie diffusée à Tarnac, des choses comme ça, cette nébuleuse a grossi. Et elle a grossi. Et là, elle, avec le mouvement des Gilets jaunes, elle a réussi un truc énorme pour elle. C'est qu'elle a réussi à fédérer des non-politiques. C'est-à-dire que dans cette nébuleuse, vous avez des gens... En fait, en termes de... Ils n'ont pas, d'ailleurs, de revendications. Et c'est pour ça que c'est une négation, d'ailleurs, des revendications des Gilets jaunes. Parce qu'en fait, leur seule revendication, eux, c'est, en gros, la fin de l'État. Et le seul mouvement, le seul, on va dire, mot d'ordre fédérateur pour eux, c'est ACAB, c'est-à-dire, en gros, ACAB, c'est-à-dire All Cops Are... Bastard, c'est la seule chose qui les unit. C'est-à-dire que c'est pas très politiquement,
tous
ça va
flics,
pas très loin.
Tous les flics sont des salauds, c'est ça. Hein,
tous les flics, il faut les buter, il faut les abattre, etc. Mais du coup, c'est compliqué à gérer parce que c'est une nébuleuse où il y a pas de chef, par définition. Il y a pas de chef, il y a pas de programme. On peut pas négocier avec eux. Leur objectif, c'est d'occuper le terrain à la rue, de recruter aussi. Mmh. Et leur grand succès, c'est précisément d'avoir recruté des Gilets jaunes, des Français prêts à la radicalisation, en gros prêts à tout, désespérés, pour des raisons légitimes. Et qui, à mon avis, sont là et sont susceptibles. C'est tout leur intérêt de voir grossir le mouvement, parce que plus ils sont nombreux, plus pour la police, c'est compliqué à traiter, à gérer, plus la masse est nombreuse. Donc voilà, ils ont obtenu gain de cause d'une certaine manière, et en termes d'image, en termes d'impact sur les médias, on ne parle plus que d'eux.
C'est justement la question que je voulais vous poser. C'était parce qu'il y avait une mobilisation, il y avait Paris et les scènes Place d'Italie, mais il y avait des mobilisations aussi des Gilets jaunes ailleurs, en province, sur des ronds-points, où ça s'est passé assez tranquillement. C'est aussi nous, alors on va le dire. Est-ce que c'est globalement les médias qui se focalisent sur ces images de violence, ou est-ce que, effectivement, c'est des scènes auxquelles on n'assistait pas de manière aussi récurrente il y a quelques années?
Je pense que les scènes auxquelles on a assisté l'année dernière et on a assisté encore ce week-end, c'est quand même totalement nouveau maintenant, dans notre décennie à nous. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on pouvait voir il y a des années. Mais là, le retour de cette violence... Alors, il y avait une ministre qui me disait on a commencé à la voir revenir, cette violence, quand des facs ont été démolies. Souvenez-vous, c'était à Montpellier, c'était à Grenoble, c'était tous ceux qui voulaient fêter mai 68, enfin fêter les années qui avaient passé depuis mai 68, fêter l'anniversaire. Elle dit, là, on s'est demandé ce qui se passait. On a quand même eu pour 5 millions de dégâts, 5 millions de travaux dans ces deux facs. Et on s'est dit qu'il se passait quelque chose. Et ensuite, effectivement, il y a des mouvements violents qui ont trouvé un véhicule idéal dans le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'était un mouvement qui n'était pas structuré, sans leader et sans service d'ordre. Qu'est-ce qui faisait auparavant que les Black Blocs restaient à un endroit de la manifestation et qu'ils ne se mêlaient pas? C'est que justement, il y avait une science de la manifestation. C'est quelque chose qui s'apprend, la manifestation. Tandis que là, effectivement, on voit la manifestation Place d'Italie, ce n'est plus une manifestation. Le préfet allemand ordonne l'annulation de la manifestation, mais c'est resté une émeute. C'est-à-dire que Place d'Italie, c'était une émeute avec des casseurs qui voulaient casser. C'est vrai que les messages politiques, alors on entendait encore en bruit de fond le message politique adressé au gouvernement en disant « ce sont des miettes que nous avons obtenues, les 17 milliards, etc. Nous ne voyons pas de conséquences. »
C'est la violence pour la violence, c'est ça que vous voulez dire ?
Sinon, au centre, c'était la violence pour la violence, et c'est une violence auquel on assiste de plus en plus. Moi, j'ai été frappée, on a fait un sondage il y a 10 jours sur la colère, les raisons de la colère dans Marianne, et on a demandé aux Français interrogés, pour chacun des moyens suivants, direz-vous qu'il est justifié ou pas pour exprimer sa colère ? 11% des personnes interrogées répondent casser ou vandaliser du mobilier urbain. Donc,
parce qu'ils trouvent que c'est normal
quand on est en colère de passer par là. Donc je pense que c'est justifié. Plus d'un Français sur 10. Et moi, ce chiffre m'a vraiment étonnée. Je pense qu'il est assez révélateur d'un nouvel état d'esprit. Avant, la violence, ce n'était pas envisageable. Ça gangrénait un mouvement social et ça abîmait le mouvement social. Et là, c'est le contraire qui se passe.
Juste une question. Comment est-ce qu'on a vécu à l'Élysée ces journées d'anniversaire des Gilets jaunes? Il y a eu une phrase du président de la République qui a fuité à dessein ou pas, disant « je vois plus de casseurs que de Gilets jaunes ». Est-ce qu'il y a toujours une angoisse chaque samedi au sommet de l'État, ou est-ce qu'eux, ils ont tourné la page en se disant que le plus dur est peut-être à venir, et on va en parler, à savoir la mobilisation sociale contre la réforme des retraites?
Alors, c'est vrai que tout le monde a les yeux absolument braqués sur cette date qu'on connaît depuis des semaines maintenant, du 5 décembre. Donc on la connaît depuis tellement longtemps que c'est devenu un mur, c'est-à-dire que c'est un mur qui s'approche et que le gouvernement, tous les ministres le disent, voit arriver. Donc c'est vrai que les Gilets jaunes, dans ce qu'ils... Ils ont presque l'impression au gouvernement que le sujet a été traité, puisqu'il va y encore y avoir des réductions d'impôts. Alors ce sera d'impôts sur le revenu, ce sera à partir de janvier prochain, ce n'est pas encore visible, mais ils pensent encore qu'il y a des effets des mesures Gilets jaunes qui vont finir par se voir et par percer dans l'opinion, en particulier chez les Gilets jaunes. En revanche, c'est vrai que la date, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'ils sont tous arrimés en attendant, agrippés, en attendant de savoir ce qui va se passer le 5 décembre.
De part et d'autre d'ailleurs, tout le monde était passé du côté du mouvement social. Il y a aussi l'idée de réussir la mobilisation. On va en reparler dans un instant. En tout cas, le jour d'après, l'émotion reste intacte pour ceux qui ont assisté au saccage de la place d'Italie partout en France. Pourtant, les rassemblements pour ce premier anniversaire des Gilets jaunes se sont déroulés dans le calme, mais à Paris, une nouvelle fois, ce sont les images de violence de part et d'autre qui l'ont emporté et qui n'ont pas permis le déroulement, vous l'avez rappelé à l'instant, de la manifestation du rassemblement tel qu'ils étaient prévus. Myriam Zéhar et Emilien David.
Face au monument vandalisé, la maire de Paris, Anne Hidalgo, entourée d'élus, observe une minute de silence en hommage aux anciens combattants. La statue du maréchal Juin tient toujours debout, mais sa plaque commémorative a été totalement saccagée samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes.
Cette dégradation est du même niveau que celle de l'Arc de Triomphe. C'est aussi grave, en fait. C'est une atteinte à nos racines, à notre mémoire et à ceux qui ont fait notre pays.
Je connais des anciens combattants qui ont pleuré. Et ça m'a fait mal. On a même pleuré ensemble.
Des dégâts importants, l'œuvre d'une poignée de casseurs, déterminés, qui pendant plusieurs heures ont fait face aux forces de l'ordre. Sur la place d'Italie, le mobilier urbain a été pris pour cible, des véhicules incendiés. Non loin de la Bastille, deux policiers pris à partie par des manifestants masqués ont même dû se réfugier dans une laverie. Une violence que certains revendiquent.
Je vous le dis franchement, j'aurais des vraies grenades, je les balancerai dans leur gueule de merde.
Vous êtes prêts à être violents, vous, aujourd'hui ?
Oui, à plus que ça encore.
Casser les magasins et tout ? Non. Par contre, s'il faut rentrer dans le temps, on rentrera tous dans le temps, et moi la première aussi.
Un anniversaire mouvementé, donc.
Manu, il doit venir souffler la bougie après.
Et des Gilets jaunes qui, un an après, se sentent toujours autant oubliés.
J'ai travaillé toute ma vie.
Toute une vie.
Aujourd'hui, à partir du 17 du mois, j'ai
c'est
plus assez.
Et encore, hein, on dit le 17.
Et mes enfants, mes petits-enfants, ils vont travailler jusqu'à quel âge? Ils ne vont pas avoir de retraite. Moi, je vais avoir 76 ans. 76 ans, je suis là.
À l'origine, trois cortèges avaient été autorisés officiellement dans la capitale. Mais samedi après-midi, devant les violences, la préfecture de police de Paris décide d'annuler la manifestation Place d'Italie. Un choix assumé par le ministre de l'Intérieur.
Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies. Mmh. On a vu des barbares s'en prendre à l'espace public et obliger les policiers d'intervenir.
Des propos virulents qui s'ajoutent à la polémique suscitée par un échange entre le préfet de police Didier Lallement et une passante.
Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune.
Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame.
Pas dans le même camp. Des propos qui indignent certains membres de l'opposition. D'autant que sa stratégie de maintien de l'ordre est critiquée.
On vous demandait la démission du préfet Lallement.
Oh bah, je trouve qu'après ce week-end, oui.
Il y a un double échec dans le maintien de l'ordre samedi, qui est celui du préfet Lallement. Et comme le préfet Lallement a été nommé spécifiquement par M. Castaner, Il y a eu deux victimes. On n'a pas empêché les bris de matériel, y compris à certains moments symboliques, comme la statue du maréchal Juin. Et en même temps, c'est le droit de manifester qui a été cassé.
Je pense que le gouvernement est le complice de la situation de désordre absolument inouï dans les rues de Paris.
C'est-à-dire qu'il y aurait une collusion entre casseurs et pouvoir.
Je pense qu'on laisse effectivement volontairement des milices d'extrême gauche qui sont parfaitement identifiées par les services de renseignement se constituer en black bloc.
Hier, les gilets jaunes étaient moins nombreux à manifester. Pour certains, ce n'est pas un hasard.
C'est cette escalade de la violence sans fin qui décrédibilise tout le mouvement et qui, effectivement, fait perdre de la mobilisation. Les gens ont peur de venir en manif.
Pour marquer les esprits, ces gilets jaunes ont choisi un grand magasin parisien qu'ils ont occupé pacifiquement pendant une heure, avec pour chacun à la sortie une amende de 135 euros.
Vous nous disiez sur ces images, Frédéric Pequin, ce ne sont pas les mêmes, là. Là, c'est une mobilisation...
Plus politique, plus gilets jaunes, et finalement, dans la logique des gilets jaunes depuis le départ, une espèce de contestation de la société de consommation, du fait... Leur slogan, c'était en gros, il faut tant de SMIC pour s'acheter tel bracelet. Ouais. C'était ça, l'idée, de dénoncer la société de consommation et le coût de certains biens.
Ils sont plus proches de leur revendication que ceux qui étaient Place d'Italie.
Et qui ont squatté le mouvement, d'une certaine manière, eux... se moquent totalement de ce genre de revendications, puisque eux, enfin, leur ennemi, c'est l'État. Et leur objectif, leur utopie, c'est d'abattre l'État. On se demande à quel moment ils vont y arriver. Mais enfin, en tout cas, c'est ça. C'est ce après quoi ils courent. Ils pensent qu'en cassant des abribus, on peut peut-être atteindre l'État, ce qui est, à mon avis, une petite erreur de calcul.
En tout cas, on crée du chaos.
Et l'idée, parce qu'on a aussi vu des images de début de lynchage de policiers, l'idée étant quand même parce
c'est
que
pas c'est aller
le représentant de l'État, c'était le but dans cette course quand on voit deux policiers se réfugier dans une laverie, le but c'est de les lyncher à terre. Alors après, de les tuer ou pas, peut-être qu'ils n'iront pas jusque là, mais ça peut aller jusque là. Donc c'est l'objectif, c'est de créer un mouvement de bascule, de jouer sur la terreur. Et là moi, je reprocherais toujours à ceux qui, politiquement, de l'autre côté, essaient d'instrumentaliser et de retourner ça en disant non, la terreur, c'est l'État, parce que c'est un peu ce que fait la France insoumise, en disant la terreur, ceux qui terrorisent les manifestants, c'est l'État, en nous expliquant qu'en gros, que la police ne fait rien et laisse faire, comme Marine Le Pen l'a dit également ces jours-ci. Je trouve que c'est totalement irresponsable. Et je trouve que c'est même assez insultant vis-à-vis des policiers qui, eux, se mettent en danger et en difficulté en permanence pour empêcher cette casse. Mais ce n'est pas si facile que ça. Hein.
Ils auraient pu empêcher la casse de la stèle du maréchal.
On a le temps exact qu'il a fallu aux forces de l'ordre pour arriver sur place. C'est une minute 15 secondes entre le début des faits. Après le choix qui a été fait, mais ça c'est un problème pour les pouvoirs publics et le politique, le choix qui a été fait sur cette manifestation, apparemment, c'est de ne pas disposer, on n'a pas mobilisé les brigades anticriminalité qu'on avait mobilisées précédemment, parce qu'on a estimé précédemment qu'elles ne savaient pas trop manier le LBD, que c'était un petit peu compliqué, qu'il y avait des dégâts humains.
On s'est rendu compte qu'elles ne savaient pas le manier.
Elles ne savaient pas le manier, ce qui est normal, elles n'étaient pas faites pour ça. Donc on a dit les CRS vont gérer, mais du coup, Les CRS, ce sont des gens qui sont obligés d'approcher, de traiter les choses en masse. Ils peuvent pas, un CRS ne peut pas se détacher de sa compagnie et dire « Allez, je vais aller attraper quelqu'un ». Ce n'est pas possible, en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça complique les choses. C'est beaucoup plus lourd en termes de mouvement. Mais c'est le choix qui a été fait par le préfet l'Allemand de ne pas les mobiliser pour éviter la casse humaine, parce qu'on savait, d'ailleurs, les images le montrent, qu'il y avait beaucoup de jeunes, Place d'Italie, beaucoup de très jeunes. Et je rappelle quand même que les principales angoisses des préfets de police de Paris, c'est qu'à un moment donné, il y a un jeune qui soit blessé, voire pire, voire tué.
Et il y en a eu des jeunes blessés depuis le début
Absolument.
De ce mouvement.
Mais tuer, c'est bien sûr que ça peut basculer, que ça peut tout faire basculer.
Alors, cette question, il y a beaucoup de questions qui ont été suggérées par ce reportage. Je voudrais qu'on vienne aussi sur le préfet allemand que vous avez cité à l'instant. Cette question, aller manifester et prendre le risque de perdre un œil, non merci. C'est aussi ça qu'on est en train de...
C'est tout le contrat social qui est chamboulé, parasité, détruit par ces activistes-là. D'abord, la relation à l'État et à l'autorité, c'est-à-dire on déclare une manifestation, on accepte la dispersion, on respecte la police, on n'attaque personne, et on arrive à le faire encore. Bah, deux jours plus tôt, il y a eu une immense manifestation très populaire, très pacifique et très rationnelle, c'est celle des personnels hospitaliers. Ouais. Pas de black bloc, pas de débordement, pas de charge de police, tout s'est bien passé. Donc la démocratie sociale, parfois, elle y arrive encore. Mais quand ils choisissent de parasiter un mouvement, ils peuvent le détruire. Ils détruisent le rapport à l'autorité et à la République. Ils essayent de détruire aussi, dans une forme de nihilisme total, le rapport au système économique dans lequel nous sommes, la consommation, le capitalisme, on attaque les vitrines des banques. Et puis, ils essayent aussi de créer une forme de terreur qui n'est plus la terreur des terrorismes d'extrême gauche des années 70, où là, on tuait le PDG de Renault, on tuait un militaire, on essayait de tuer, ça a donné Action directe chez nous, les brigades rouges ailleurs. On n'est plus dans ce terrorisme-là. On est dans une terreur limitée. On ne tue pas. Les Black Blocs n'ont pas d'armes à feu parce qu'ils savent que s'ils commencent en légitime défense, les policiers vont riposter à balles réelles et là, eux seront tués aussi. Donc on est dans une autre forme de terreur. On va dire, on va dissuader les citoyens qui veulent manifester d'aller manifester. On va dissuader les commerces de s'ouvrir. On va dissuader les gens de venir dans les centres-villes pendant les week-ends des fêtes pour faire leurs courses de Noël. Et tout ça, c'est une autre forme de terreur dont on a vu la première expression au moment des ZAD. La grande victoire de cette extrême gauche-là, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Un projet voté, revoté, validé par la justice, validé par un référendum et abandonné par l'État, parce que l'État sait que pour évacuer la zone, il va falloir prendre des risques monumentaux et sans doute faire des morts. Et aujourd'hui, la démocratie qui a le monopole de la violence légitime ne peut plus l'utiliser parce que notre société, et c'est tant mieux, ne supporte plus la mort d'un jeune manifestant ou d'un policier pour simplement rétablir l'ordre. Et donc, on est coincé. Et donc, si vous occupez avec quelques centaines de camarades un chantier, vous savez qu'à terme, vous gagnerez. Vous gagnerez contre la démocratie, contre l'économie, contre les
décisions
de justice.
C'est la casse qui gagne à la fin ?
C'est la casse qui gagne à la fin parce qu'en face... La République ne peut plus faire ce qu'ont fait des socialistes comme Jules Moc ou bien Clémenceau, c'est-à-dire rentrer dans le temps,
chargé.
Guillemets, chargé, et ça fait des morts. Six morts en 1948 pour évacuer des mines. Des dizaines de morts en 1906 ou 1907. On acceptait à ce moment-là qu'au nom de l'ordre public, il y ait des morts parmi les manifestants ou parmi les soldats ou les gardes mobiles. On a changé d'époque. C'est tant mieux. Une vie épargnée, ça n'a pas de prix. Mais du coup, ça bloque notre démocratie. Les élus ne sont plus respectés, la police n'est pas respectée. On ne peut plus réformer, changer, bouger, et on donne finalement la victoire à ceux qui sont dans une violence qui ne franchit jamais la ligne rouge de l'assassinat, mais qui est en deçà, est toujours présente et gangrène tout ce qu'elle veut.
Je disais effectivement, on n'est ni au Chili, ni à Bagdad, ni à Hong Kong. Et quelque part, c'est tout à l'honneur d'ailleurs de nos compagnies républicaines de sécurité qui parviennent à maintenir l'ordre. Sans tuer. C'est vraiment le maintien de l'ordre à la française vise précisément, à la différence de ce qui se passe dans tous les autres mouvements sociaux dans le monde entier actuellement, à ne pas faire de mort. Et c'est la grande angoisse, la grande inquiétude, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, un mouvement peut basculer complètement.
On parle de violence quand on entend le « toute chose égale par ailleurs », comme on dit. Quand on entend le discours politique, il y a de la violence aussi dans la façon dont les partis se répondent les uns les autres. Il n'y a pas de naïveté dans ce que je dis, c'est juste quand on entend un responsable politique dire qu'il y a une instrumentalisation du gouvernement, de la violence et au fond une forme de manipulation. On est dans le grand complot, on l'entendait dans le reportage à l'instant. On entendait aussi un ministre de l'Intérieur parler des barbares. On a l'impression qu'il y a une surenchère à tous les niveaux.
Oui, ça vient. En réalité, moi, je trouve qu'il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène des Black Blocs dont on a parlé, qui existe depuis des années, qui se collent aux manifestants, qui font ce qu'ils font, qui le font d'ailleurs d'autant plus qu'en dehors de la police, il n'y a personne contre eux. Parce que je rappelle quand même que dans les années encore récentes, 2010, 2013, 2014, lorsqu'il y avait des syndicats qui organisaient des manifestations, il y avait des services d'ordre des syndicats.
Ouais. On va en parler avec maîtrisaient... Jean-Claude Maillet dans un instant, vous l'entendrez.
Le service d'ordre de la CGT était une remarquable organisation d'ordre public. Ouais. Bon, donc, il y a les Black Blocs. Mais ce qui m'inquiète plus que les Black Blocs, qui au fond ne sont pas un phénomène récent, même s'ils grandissent, c'est qu'il y a une montée de la violence dans la société française. Et je crois que cette montée de la violence, dans l'expression d'abord de la violence, avant même la violence, dans l'expression de la violence, est liée à tout ce qu'on voit par ailleurs, c'est-à-dire le rejet des politiques, le rejet des médias, le rejet des corps intermédiaires, le rejet de tout ce qui est et surtout qui a été. Et que tout ça crée une forme de vide qui permet aux violences, aux aspirations violentes de se manifester. Et ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est que lorsqu'on regarde toutes les enquêtes d'opinion sur des années, donc sur le moyen terme, on voit quand même qu'il y a une montée dans le ton des revendications. Je ne dis pas dans la violence, je dis dans le ton, dans l'expression de la revendication, dans la violence de l'expression, qui est quand même un peu nouveau dans notre pays, et qu'il y a en même temps une manière de rejeter tout ce qui est l'ordre normal de l'État et de la démocratie. Et que tout ça est extrêmement dangereux. Et va d'ailleurs de pair, je trouve, dans les mêmes sondages, à un autre phénomène qui apparemment n'a rien à voir, mais après tout, le sait-on, qui est la recherche d'un pouvoir autoritaire. Il y a un pourcentage de plus en plus important de Français, notamment chez les jeunes, qui désirent qu'il nous faudrait un pouvoir autoritaire. Il nous faudrait une main très forte qui maîtrise tout ça. Maîtriser tout ça, c'est maîtriser à la fois les Black Blocs et maîtriser aussi les politiques. Et ça, c'est beaucoup plus grave qu'une manifestation, parce que ça s'appelle un changement de système politique.
Et vous faites sans doute référence à ce moment, au moment de la crise des Gilets jaunes, où certains Gilets jaunes revendiquaient effectivement un régime autoritaire et appelaient au pouvoir le général de Villiers. Le préfet l'Allemand, qu'on vient de voir dans le reportage, qui dit « nous ne sommes pas dans le même camp ». Est-ce que là, il est dans son rôle? Il a été appelé par Christophe Castaner au moment où la doctrine de maintien de l'ordre a été mise en échec. C'était début décembre au mois de l'année dernière. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Nous ne sommes pas dans le même camp.
Non, c'est une erreur manifeste. Il est préfet de police, il doit garantir l'ordre, il doit permettre aux Parisiens qui souhaitent de manifester dans le calme, si tant est que ce soit possible, mais certainement pas se placer dans un camp politique. Il est là pour représenter la République et pas un camp, et les Gilets jaunes sont dans la République, qu'ils le veuillent ou non. Donc effectivement, c'est une communication qui n'est pas du tout efficace. Le préfet allemand, on sait pourquoi il est là pour répondre à un besoin qu'avait le gouvernement de trouver un homme un peu à poigne qui soit à même de tenir les choses à Paris. Il y avait beaucoup de questions, de remise en question du préfet précédent qui était M. Delpech et qui a été limogé par le pouvoir. Et donc l'idée c'était d'avoir un homme à poigne qui rassure. Alors, ce n'était pas le premier choix, d'ailleurs, puisque Frédéric Pechnard, qui est un proche de Nicolas Sarkozy, qui est un ancien patron de la police, avait été proposé pour ce poste. Il a refusé. Et donc, c'est Didier Lallement qui occupe aujourd'hui ses fonctions avec la volonté de marquer un peu sa présence.
C'est vrai qu'il a incarné une rupture en plein milieu du mouvement des Gilets jaunes. On avait un préfet, Delpech, qui était un homme du Cantal, d'Aurillac, auvergnat. Doux, tranquille, rond. Et puis tout d'un coup, on a le pouvoir qui dit non, ça suffit là. Je veux dire, on peut pas. En gros, c'est ça qui s'est passé. Ça suffit, on peut pas laisser casser, détruire les champs.
Mais avec succès ou pas? Parce qu'on entend
changer. Non, mais il faut changer de technique. Bah, alors, avec succès. La première fois qu'on a vu à l'œuvre cette nouvelle méthode, ça ouvre un peu le débat suivant. C'est le 1er mai 2019. 1er mai 2018, la police avait été complètement débordée. Les syndicats, finalement, déjà avaient pris une grosse claque parce que, en fait, de convergence des luttes, en réalité, ils s'étaient fait voler le 1er mai par les Black Blocs. 1er mai 2019, les Black Blocs commencent à se former. Et là, on a le préfet allemand qui dit on va tester une nouvelle méthode. Et au moment même où se forme donc le fameux bouclier des Black Blocs, derrière cette espèce de banderole bouclier, en réalité, au moment où elle se dresse précisément à ce moment-là, et ça, ça a été nouveau, donc, et ça a été un succès d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont empêché le 1er mai 2019 de dégénérer. Simplement, il y a eu une conséquence, c'est que M. Martinez, donc patron de la CGT, s'est retrouvé privé de son défilé et il s'est mis à hurler, c'est grand Dieu, que en réalité,
c'était les forces de l'ordre qui avaient.
En réalité, il avait rêvé d'une convergence avec cette mouvance-là et il s'est avéré ce jour-là que la convergence en question était totalement impossible.
Alors on dit, il a un bilan positif ou pas? On entendait encore une fois dans le reportage un membre de la France Insoumise qui dit, il y a eu de la casse. Le maréchal Juin, d'ailleurs, au passage, je me tourne vers vous, Christophe Barbier, c'est grave ou parce qu'on a beaucoup parlé de l'Arc de Triomphe, mais moins de la stèle du maréchal Juin, et donc sur la poigne du préfet allemand.
Le maréchal Juin, ça aurait été grave si ça avait été un objectif politique, faire tomber la statue d'un général pour dénoncer l'armée ou le gaullisme, ou Dieu sait. Personne parmi les Black Blocs ne savait qui était le maréchal Juin, c'est évident, et encore moins la bataille du Garigliano et la campagne d'Italie. Donc ils voulaient simplement récupérer des morceaux de marbre en cassant cette stèle. D'ailleurs, ils ne se sont pas pris du tout à la statue, parce qu'une statue de bronze de plusieurs tonnes ne pouvait rien en faire pour la lancer sur les CRS. En revanche, des bouts de marbre bien tranchants, ça pouvait être très précieux. Je ne pense pas du tout que la symbolique politique, contrairement à l'Arc de Triomphe, qui évidemment est connue de tout le monde et on sait ce que c'est, était au rendez-vous. Je pense que le choix de la place d'Italie était le moins mauvais des choix. Parce que oui, il y a eu la casse, des voitures brûlées, la statue, etc. Mais il n'y a pas grand-chose autour. Il y a très peu d'habitants, il y a très peu de commerces. Et donc, ça a été une sorte de champ de bataille assez large, où il y avait déjà des chantiers, des palissades. Donc, c'était déjà dans un état un peu de semi-destruction. Et donc, je pense que de ce côté-là, la police a bien joué. Le problème, c'est qu'en effet, il n'y avait pas la BAC. Donc, à partir du moment où ils appliquent la stratégie du flipper, en repoussant d'un coin à l'autre de ces boulevards, les manifestants, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire les encercler et les arrêter. Parce qu'il n'y a pas la BAC. Donc ils partent, ils s'éparpillent dans les rues, et ça donne ce qu'on a vu toute la soirée à Paris, des exactions de ci, de là. Et puis surtout, on va voir maintenant, dans les jours qui viennent, la compétence, la performance ou la défaillance judiciaire.
Alors, c'est
ceux
ça,
qui ont été arrêtés, est-ce qu'on les libère parce qu'on n'a pas les éléments? L'homme qu'on voit détruire cette plaque, il y a ses vêtements, il y a son style, il y a un bout de son visage, il est filmé sous toutes les coutures. Avec les caméras vidéo aux alentours, honnêtement, on doit pouvoir le retrouver. Si on n'arrive pas à le retrouver, à l'identifier, à le condamner, c'est bien que la chaîne pénale est totalement défaillante entre le constat des faits filmés par la télévision et la production de preuves qui permettent de condamner quelqu'un. Est-ce qu'il faut utiliser des liquides marquants? Ils sont en test pour pouvoir retrouver les gens trois jours après et dire « vous avez la trace du liquide, vous étiez donc bien
place d'Italie ». C'est ce qu'on fait aussi à Hong Kong en ce moment.
Voilà. Donc, techniquement, il y a plein de problèmes qui se posent. Mais le préfet allemand a quand même fait rattraper à la police qu'elle avait, c'est-à-dire une guerre de retard avec le préfet Delpech.
Vous parlez de la justice, il y a une sévérité de la justice depuis le début de la crise des Gilets jaunes à l'encontre des personnes qui sont interpellées et des personnes qui sont des casseurs. Je cite ces chiffres qui ont été révélés par une enquête du Monde sur le sujet. 10 000 gardes à vue, 5 300 qui se sont conclus par des poursuites et 3 100 condamnations. Là, on est dans de la fermeté. Oui,
absolument.
Oui.
Mais la grande difficulté, enfin pour poursuivre ce que vous venez de dire, la grande difficulté, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en meute, vous agissez en meute, vous cassez en meute, que ce soit les règlements de compte ou les affrontements entre bandes dans les banlieues ou les Black Blocs, et eux ils le savent très bien, ils ont cette culture-là. Ça fait dix ans qu'ils manifestent de cette façon-là et qu'ils ne sont pas attrapés. Ou bien, quand ils sont attrapés, de toute façon, il n'y a qu'à demander aux policiers d'expérience, ils se retrouvent avec des gars qui ont le numéro de téléphone de leur avocat marqué au marqueur sur le bras, qui n'ouvrent pas la bouche, qui ne disent rien, qui ne reconnaissent rien, qui nient tout, qui sortent le numéro, démerdez-vous avec le numéro, et qui savent très bien qu'il y a une grande difficulté, c'est que la justice ne peut pas condamner une meute. La justice condamne un individu. D'accord, la justice, elle prend
avec
l'individu.
Avec des preuves.
Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, on ne peut pas dire « Ah, mais vous étiez là, dans le coin, etc. » C'est impossible, je veux dire, pour un magistrat. Non, mais d'envoyer quelqu'un, de déférer quelqu'un et d'incarcérer quelqu'un. Donc, leur grande défense, c'est pour ça qu'ils sont habillés en noir. C'est justement pour s'indifférencier, c'est-à-dire qu'on ne les reconnaît pas et qu'ils ont d'ailleurs, en général, le long des parcours des manifs, des vêtements de rechange planqués dans les bouches d'égout, ici, à droite, à gauche, ce qui fait que même si on utilise des marqueurs, ils vont changer en cours de route et retourner. Donc, ils savent très bien tout ça. Ils exploitent, en gros, toutes les faiblesses. La question, c'est est-ce que ça concerne,
et on va avancer sur cette réflexion au cours de l'émission, est-ce que ça concerne cette minorité agissante, violente, qu'on connaît, qui est organisée, même formée à cette violence-là, ou est-ce que ça infuse. Est-ce que ça infuse dans l'ensemble du mouvement social? Est-ce que ça infuse parfois à la base des syndicats? Je voudrais juste, on a parlé de cette personne au début de l'émission qui avait été blessée à l'œil par un tir de projectile. On parlait de balles LBD, mais visiblement, ce serait plutôt une grenade. Une enquête de l'IGPN a été ouverte pour connaître les circonstances de, de ce drame, puisque cette personne a été blessée à l'œil hier. Alors le 5 décembre, on en parlait au début de l'émission, ce sont les syndicats qui seront à la manœuvre de cette grande journée de grève et de manifestation. Certains redoutent déjà l'addition des colères et les organisations syndicales, elles, craignent de se faire voler le mouvement par les casseurs. C'est devenu pour elles un enjeu. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ceux qui a été en tête de cortège pendant 14 ans sous les couleurs de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly nous raconte comment il a vu évoluer le climat dans les manifestations depuis toutes ces années en France. Propos recueillis par Mathieu Lignot et Wan Nguyen.
Les responsables de services d'ordre sont des gens qui s'entraînent régulièrement, toutes les semaines, etc. Après, ce sont des militants qui font... Dans le service d'ordre, on peut avoir, nous, par exemple, à FO, je me souviens, on doit ça encore être le cas aujourd'hui, on pouvait avoir des gardiens de la pénitentiaire, on pouvait avoir des policiers dans notre service d'ordre. Son rôle, c'est d'abord de protéger le cortège, de protéger les manifestants. C'est d'abord ça, le rôle d'un service d'ordre. Donc, le protéger, y compris s'il peut y avoir... quelqu'un à l'intérieur du cortège qui déconne, ils vont tout de suite lui signifier. Ou des gens qui veulent pénétrer à l'intérieur du cortège pour se protéger. On a vu ça en 2016, par exemple, avec ceux qu'on appelait les Black Blocs. 2016, c'est vrai. En 2016, les problèmes, on les avait devant. À tel point que ça bloquait la manifestation, bien souvent, avec les militants derrière râler, parce qu'ils voulaient... Ils voulaient manifester. Avant, on disait toujours c'est les fins de cortège et on renforçait plus le service d'ordre en fin de cortège. Ce qui est moins vrai aujourd'hui. C'est vrai que ça se situe plutôt devant. Ceux qui sont dans cette situation, ils vont à l'affrontement avec la police. Quand c'était les fins de cortège, c'était pas obligatoirement l'affrontement avec la police, quoi. Et là, je me souviens de heures avec ces gens-là. Le service d'ordre, on a eu des gens blessés dans le service d'ordre. FO et les gens blessés, la CGT aussi, en 2016. Moi, je me souviens, quand on était dans le cortège, de ces gens qui étaient sur le bord du trottoir et qui disaient SO, donc service d'ordre, SO collabo. C'est des choses qu'on a entendues. Il n'y a plus de discussion avec les syndicats. C'est clair. Je pense qu'avec la réforme de la SNCF, il a cru qu'il pouvait passer en force et qu'il pouvait tout faire. Bon, ben, quand vous n'avez plus d'interlocuteur, ou que vous ne voulez plus avoir d'interlocuteur, ben, vous vous retrouvez avec face à la démocratie directe, ça devient Gilets jaunes contre l'Élysée, quoi. C'est devenu ça. Donc il a une part de responsabilité, par définition, dans la politique. Ces gens-là ne manifestent pas pour le plaisir de manifester. Le gouvernement n'a rien à gagner quand il y a de la violence, mais n'a rien à gagner, lui, à être trop ferme. Ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui. Mais comment se fait-il que s'ils sont 200 ou 300, la police n'arrive pas à les arrêter? Les gens ne comprennent pas. Et on peut se poser la question, même si on est dans un état de droit et qu'il faut pour arrêter, il faut qu'il y ait un motif. Bon. Ça, c'est les gens, mais comment ça se fait qu'à chaque fois, les mêmes, j'en sais rien, mais on revienne et qu'on n'arrive pas à les arrêter? Et ça, c'est pas au crédit du gouvernement. Vous avez aujourd'hui, quand il y a un appel à manifester, vous avez des gens qui ne veulent plus aller manifester parce qu'ils ont peur. Il y a toute une époque où les manifs du 1er mai, par exemple, qu'elles soient importantes ou pas, les gens venaient en famille. En général, c'était les premiers week-ends en plus où il faisait beau, donc ils venaient avec les enfants ou les petits-enfants, etc. Ça, vous ne voyez plus ça aujourd'hui, beaucoup moins. Parce que les gens ont peur, ils disent s'il y a des actes de violence, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est une liberté. Le jour où on interdit les manifestations, on pourra se dire qu'on n'est plus dans une démocratie.
Et cette question, les syndicats sont-ils dépassés ou simplement obsolètes dans notre société qui a profondément changé, Christophe Barbier?
Dépassés ou obsolètes, c'est un peu la peste et le choléra. Oui, Emmanuel Macron a ignoré les syndicats par le haut. Mais le peuple, les Gilets jaunes, ont ignoré les syndicats par le bas. Les Français se syndicalisent peu, ils y croient peu. Les Gilets jaunes les ont niés tout de suite en disant on n'a pas besoin d'eux, on ne veut pas d'eux. Et cette confrontation entre l'Élysée et la démocratie directe, qu'expliquait Jean-Claude Mailly, elle a été la volonté des deux. De Macron, qui pensait réformer la hussarde et ne voulait pas perdre du temps à négocier avec les syndicats, et des Gilets jaunes qui se sont dit ça ne sert à rien de nous confier ni à des élus politiques, ni à des élus syndicaux, allons directement prendre le pouvoir ou en tout cas réclamer devant le pouvoir. Donc oui, on est face au nouveau monde, comme dit Macron, c'est-à-dire les anciens partis sont obsolètes, dépassés, défunts, et les syndicats devraient faire très attention parce qu'ils ont perdu aussi cette légitimité-là. Alors, Ils l'ont compris aussi. Ils essayent de se réformer, de rechercher une nouvelle représentativité. Les règles ont changé, mais pas tous, et pas tous à la même vitesse. On voit bien que la CGT est encore dans une manière un peu archaïque de faire de la lutte pour sauver ce qui peut l'être, et pas d'inventer quelque chose qui soit un réformisme où les adhérents, mais aussi tous les autres travailleurs, trouvent leur compte. On voit bien que Laurent Berger, lui, il a essayé de franchir ce cap de la modernité. Ça ne lui facilite pas forcément ses rapports avec l'Élysée, mais en tout cas, il est plus en phase avec un 21e siècle. C'est pas simple. C'est pas simple. Moi, j'ai une solution, hein, c'est de rendre le syndicalisme obligatoire. Quand on rentre dans une entreprise, on adhère à une mutuelle, on a le choix maintenant. Eh bien, quand on rentre dans une entreprise, on adhère à un syndicat. Ça fera des millions de syndiqués, mais simplement, les syndiqués ne voudront pas des combats idéologiques sur les plateaux de télé ou dans la rue. Ils voudront des syndicats qui travaillent concrètement à des avantages et des acquis sociaux concrets.
Ce qu'ils font dans l'entreprise, en réalité,
oui,
aujourd'hui.
De manière micro-sociale, ils le font. Et souvent en bonne entente avec les patrons éclairés. Pourquoi ils n'arrivent pas à le faire au niveau national? Parce que les syndicats ont encore un ADN très politisé et parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent dans le syndicalisme, d'argent public, et que certains n'ont pas trop envie de perdre ce fromage.
Vous aviez raison tout à l'heure, Christophe Barbier, de rappeler qu'il y a certaines manifestations qui ont encore lieu en France et qui ne donnent pas lieu à des violences. Et vous parliez à juste titre des manifestations des personnels hospitaliers.
Ou l'environnement. L'environnement, on a vu beaucoup de manifestations de jeunes qui, pour la plupart, se sont bien passées.
Raymond Soubi, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas le 5?
Eh bien, écoutez, d'abord, le 5, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des mots d'ordre de grève, reconductibles, essentiellement à la RATP et à la SNCF. Et là-dessus, la CGT et quelques autres syndicats ont collé, si j'ose dire, une journée d'action, comme ils disent, c'est-à-dire des manifestations, etc., indépendamment de la situation des deux entreprises, RATP et SNCF. Il faut bien voir qu'à la RATP et à la SNCF, les mouvements de grève ne sont pas partis des syndicats. Je veux dire, à la RATP, il est très clair que le climat est très chaud. Il y a eu un mot d'ordre de grève reconductible, qui d'ailleurs au départ n'a pas du tout été lancé par la CGT, mais par l'UNSA et la CGC. La CGT ne s'est ralliée qu'après coup, parce que ce sont quand même des hommes d'honneur, ils ne pouvaient pas laisser faire ça sans eux. Et à la SNCF, les mouvements qui ont éclaté depuis 15 jours, 3 semaines, en réalité, ne l'ont pas du tout été à la demande des syndicats, mais l'ont été parce que les personnels ont débrayé d'eux-mêmes. D'ailleurs, dans une forme d'anarchie. Ce qui veut dire que le mouvement social là, qu'on voit pour le 5 décembre n'est pas un mouvement de syndicat. Je voudrais bien insister là-dessus. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est un mouvement qui vient de la base. Et les syndicats, comme ce sont des gens d'honneur qui les encadrent et qu'ils sont censés les représenter, ils en rajoutent une couche pour leur crédibilité. Alors, pour répondre quand même à votre question de ce qui va se passer, nul n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une grève très forte à la RATP, et sans doute forte à la SNCF, parce qu'à la SNCF, il y a deux sujets. Il y a les retraites, et puis il y a les sujets propres à la SNCF, qui n'est pas notre sujet ce soir, à savoir la réforme de la SNCF, qui a été annoncée il y a un an, mais dont il faut bien voir qu'aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Elle est devant nous, donc elle est devant eux. Donc ils ont des motifs de mécontentement très forts, indépendamment des syndicats, indépendamment des Gilets jaunes, pour eux-mêmes. Simplement, ceci, plus cela, plus les manifestations que vont quand même organiser les syndicats, plus le climat dans les personnels de santé montre qu'il y a un certain nombre de foyers qui sont allumés, qui sont très chauds, qui ne sont pas encore coagulés du tout. Ce sont des sujets différents. Et alors, est-ce qu'ils vont créer des violences, eux?
Sont-ils dans le piège de la violence, puisque
eux ne veulent pas créer de violence, c'est clair. Ouais. Bon. Sous réserve que je pense qu'il doit y avoir des éléments radicalisés, y compris parmi les gens qui vont faire grève. La grande question est de savoir si nos amis, si j'ose dire, les Black Blocs, vont utiliser les manifestations du 5 décembre et des jours suivants pour faire ce qu'ils ont fait l'autre jour chez les Gilets jaunes. Peut-être, ce n'est pas certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que s'il y a un dérapage des mouvements RATP, SNCF, etc., c'est plus dangereux que les Black Blocs avec les Gilets jaunes.
Pourquoi? Parce que
ça concerne les salariés eux-mêmes, ça concerne les personnes, c'est beaucoup plus basique.
Il y a Raymond Soubi, pardon, je vous coupe, il y a la tentation de la base de ces syndicats-là, les plus radicaux, on va dire, de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire de passer à la violence, parce que, c'est ce que disait tout à l'heure Christophe Barbier, la casse paye.
Oui,
quelques mois lorsqu'ils ont vu les 17 milliards lâchés par le gouvernement.
Vous avez raison, c'est les célèbres 17 milliards. Ah, il suffit donc de casser pour obtenir 17 milliards de satisfaction. Je crois qu'il y a cette tentation, oui, je crois qu'il y a cette tentation. Et lorsqu'on lit quand même toutes les enquêtes, on voit que le climat social de la France aujourd'hui n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il y a une grande majorité de citoyens opposants qui trouvent que les mesures sont injustes, etc. Donc les mouvements sociaux du 5 décembre, indépendamment même des Black Blocs, et je dirais presque indépendamment des syndicats, risquent d'être très chauds parce que la base elle-même est très chaude.
Et la c'est question... la différence avec 95.
Alors, le problème qu'il va falloir surveiller, c'est qu'en 95, le mouvement est parti tout seul dans les mouvements, parce que contrairement à ce que je lis ici et là, on dit qu'il y avait un projet de réforme des régimes spéciaux en 95. Moi qui ai bien connu le sujet, j'ai été le médiateur du conflit. Il y avait zéro projet. Et d'ailleurs, le conflit était d'autant plus difficile à régler qu'on ne pouvait pas retirer un projet puisqu'il n'existait pas. Donc, il y a eu en 1995, ça a été des mouvements dans les entreprises publiques de transport avec un truc très important, c'est que les Français, dans les sondages, disaient qu'ils se reconnaissaient dans ces mouvements et qu'il y avait une sorte de grève par procuration, comme on le disait à l'époque. Donc, il va falloir surveiller le taux de grévisme, mais il va être très fort. Il va falloir surveiller les sondages pour savoir si les Français se sentent en quelque sorte impliqués et concernés.
Et dans une interview que vous avez faite avant ce C'est dans l'air, vous expliquiez que la différence entre 1995 et aujourd'hui, c'était la violence qu'on ne retrouvait pas.
Oui, il n'y avait pas de violence. Il y avait beaucoup de grévistes, beaucoup d'ennuis, beaucoup de perturbations, pas de violence.
Frédéric Plequin, sur le 5 décembre, il y a sans doute aussi une appréhension de la part des forces de l'ordre. La personne avec qui vous avez écrit votre dernier livre, il s'appelle David Lebar, et il est syndicat des commissaires de police. Il dit plus rien ne sera jamais comme avant dans les relations entre la police et une partie de la population, et il parle de fracture.
C'est un autre problème. C'est vrai que dans la rue, aujourd'hui, la haine anti-flic monte et que cette haine est une sorte d'ultime coagulant. C'est peut-être le seul coagulateur, on va dire, au cœur de la lutte. Parce que bon, là, le rejet du système, etc., ce sont des grands mots. Mais là c'est malheureusement pour les forces de l'ordre, c'est ce qui les rassemble et les unit, c'est de s'en prendre à ce représentant de l'ordre qui est en face pour déstabiliser l'ordre avec l'espoir un peu vain de changer de président de la République du jour au lendemain, parce que c'est un petit peu ça. Donc, cette espèce de rêve de grand soir, avec derrière quand même tout un tas d'allumés du clic, je les appelle les maquisards du clic, qui croient, parce que je veux dire, aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et si on considère que ça présage de ce qui va se passer, vous avez quand même un certain nombre de personnes qui sont absolument persuadées qu'on est sous occupation allemande, hein, je veux dire sous occupation allemande, et qui traitent les policiers de force de la quasiment occupante et ceux qui défendent la police de collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'immense confusion dans les esprits aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Pas dans tous les esprits.
Enfin, sur les réseaux sociaux, mais qui sont importants. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, là, cette haine, elle se véhicule énormément par les réseaux sociaux qui sont un nouvel espace dans lequel ça s'éclot. Et derrière, vous avez des gens qui profitent, qui jouent là-dessus, et vous le disiez, vous l'observiez vous-même tout à l'heure, qui finalement, indirectement, sont du côté des Black Blocs, enfin, qui se servent, qui essaient de prolonger ce que font les Black Blocs dans la rue, en récupérant cette chose-là et en racontant n'importe quoi derrière. Donc là, vous avez potentiellement un bouillonnement qui peut effectivement déboucher sur encore une nouvelle hausse de la violence dans ce pays.
C'est un vrai problème pour la société globalement, et pas que la société française, la société occidentale. Les réseaux sociaux sont devenus un espace de haine et de violence en toute impunité. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, personne ne vous attaquera en justice. Les ZAD ou les violences de rue telles qu'on les a vues deviennent d'autres espaces d'impunité. Très peu de chances de se retrouver devant un tribunal et d'être condamné. Donc on voit bien que la zone du droit recule et que ceux qui ne veulent pas respecter la loi républicaine gagnent du terrain. Alors quand est-ce que ça va s'arrêter et à quel prix? Ça, c'est un des risques dans les années qui viennent. Alors évidemment, si la croissance économique revient, que tout le monde retrouve un emploi, que tout le monde est riche, il n'y aura pas de problème. On pourra déverser les milliards. Ouais. Mais si on va vers une crise économique qui est pérenne ou un redressement trop mitigé, on risque d'avoir ce risque de démocratisation, de démocratie dégénérescente très longtemps. Et la réponse de ceux qui refusent la violence, ça va être l'homme d'ordre. Ça va être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la démocrature. On l'a vu dans certains pays. Qu'est-ce que Poutine? Il est élu. Qu'est-ce qu'Erdogan? Il est élu. Alors évidemment, on sait qu'il y a des partis uniques et que la démocratie est muselée. Mais enfin, la population, au moins dans un premier temps, elle applaudit à l'ordre maintenu et la sécurité rétablie. Après, c'est plus compliqué, les démocratures.
Sazi Kemener, sur le 5 décembre, puisque vous parliez des réseaux sociaux, ce qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est parfois véhiculé d'ailleurs par certains responsables politiques, c'est de dire, en gros, le gouvernement a besoin que ça se passe mal, le 5, et que ce ne soit pas un mouvement social organisé, massif, mais plutôt un gouvernement erratique avec des violences, parce que les violences, ça abîme la mobilisation, ça abîme le mouvement social, et ça permet à un moment donné au gouvernement de dire, voyez, regardez, ce sont des voyous, ce sont des casseurs, ce sont des barbares.
À la différence près que c'est très difficile d'imaginer qu'on vive le même mois de décembre en 2019 qu'en 2018. Emmanuel Macron, il est dans une stratégie de conquête de ce qui reste encore à droite, de la droite non macronienne, et donc il a besoin de garantir l'ordre. C'est pour ça qu'il a eu un bon score, contrairement à ce qui était annoncé, que la liste de Nathalie Loiseau est arrivée en deuxième position aux élections européennes, parce qu'il était reconnu par la droite comme celui qui était capable de maintenir l'ordre. Donc ce serait au contraire, moi je pense que, enfin de ce que j'entends en tout cas au gouvernement, on s'inquiète plutôt par exemple de ce que les cheminots pourront faire et des tabous qui pourraient être transgressés. Par exemple, la question pour l'instant ne s'attaque pas au matériel. Est-ce que c'est des questions qui existent aujourd'hui? Je ne dis pas que ça va arriver, je ne le souhaite pas. Mais on entend en tout cas des ministres s'interroger à haute voix en disant est-ce qu'il n'y a pas encore des nouveaux tabous qui vont être franchis? Est-ce qu'on ne va pas aller encore plus loin? Et Emmanuel Macron a besoin de tenir l'ordre, en tout cas dans la stratégie politique qui est la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire bien tenir la droite.
Alors, la violence, elle n'est pas naturellement que dans les cortèges, elle s'exprime au quotidien contre toute forme d'autorité, à commencer par celle des maires. Une cinquantaine d'entre eux ont signé une pétition dans le JDD hier pour dénoncer les incivilités dont ils sont les victimes. Et parfois, vous allez voir, à la violence verbale succèdent les coups. Juliette Perrault et Christophe Roquet.
C'est un cri d'alarme adressé au président de la République et à son gouvernement.
Chaque jour dans nos communes, nous constatons la dégradation rapide du vivre ensemble.
Une tribune signée par une cinquantaine de maires pour réclamer plus de moyens face à la recrudescence des incivilités auxquelles ils font face au quotidien.
Quand on regarde l'âge, les maires font beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont besoin de la puissance publique pour les accompagner, pour les aider. Vous savez, souvent le maire, quand il est en difficulté, c'est quand il exerce des missions au nom de l'État, ne serait-ce que sur la sécurité, par exemple, pour faire constater une décharge sauvage, pour ici rappeler à l'ordre ou rappeler les règles du vivre ensemble, mais notamment celle de la tranquillité publique. Et sur toutes ces missions, depuis plusieurs années maintenant, il y a une forte dégradation.
Un malaise général, révélé au grand jour cet été après la mort du maire de Signes dans l'exercice de ses fonctions. Le 5 août dernier, Jean-Mathieu Michel est renversé par une camionnette alors qu'il tentait d'empêcher son conducteur de déverser illégalement des gravats dans la commune. Un accident qui suscite émotion et indignation.
Nous sommes là pour lui dire qu'à Signes, il nous manque déjà. Et il va encore nous manquer.
Jeannot, on le connaît, moi personnellement, je le connais depuis 45 ans. Bon ben, c'est un ami qui part, quoi. Ça fait quand même quelque chose.
Dans les jours qui suivent, la parole des élus se libère. Beaucoup racontent les violences et insultes qu'ils subissent au quotidien. Parmi eux, Jackie Caisson, maire en Charente-Maritime, qui lutte régulièrement contre les incivilités dans sa commune.
Voilà ce à quoi il s'amuse, la lutte, bien sûr.
Donc des dégradations régulières.
Dégradations régulières.
Des dégradations qu'il a tenté de stopper. Et c'est justement au cours d'une de ses interventions qu'il s'est fait agresser.
Donc je viens vers eux. Comme d'habitude, il y a le caïd qui se met face à moi. Et puis je lui dis, maintenant, vous allez arrêter, quoi. Vous allez arrêter de casser, quoi. Hein ? Et donc là, une fraction de seconde, ils me sont tombés deux ou trois dessus à coups de poing. Et je suis tombé au sol.
Des maires agressés et violentés. Un sujet dont s'est emparée la commission des lois du Sénat en lançant une grande consultation auprès des élus pour recenser les incivilités dont ils font l'objet.
Les maires vont sur le site et ils trouvent le questionnaire. Ils peuvent alors avoir d'abord des explications et puis ensuite des questions. Or, le maire, au fond, il est le visage de la République pour nos concitoyens, mais aussi le visage de l'autorité publique. Il faut que son autorité soit reconnue et respectée. Et quand elle ne l'est pas, il faut que les services de l'État viennent à la rescousse.
En deux mois, près de 4000 maires ont répondu à la consultation. Une enquête qui a conduit la commission à proposer un plan d'action de 12 mesures, notamment un appel à plus de fermeté dans les tribunaux.
Cette question, ne pensez-vous pas que la vraie manifestation aura lieu dans les urnes ?
Oui, bien sûr, mais bon. Ça, à la limite, c'est la démocratie. Alors, chaque parti essaye de se positionner pour récupérer qui les mécontents en colère, qui, ceux qui, inquiets par la violence, veulent plus d'ordre. Donc, il y a un jeu démocratique qui vient se greffer dessus, qui parfois est un peu électoraliste, avec des prises de position verbales qui sont parfois de l'huile sur le feu et des calculs sous-jacents. Mais c'est quand même la démocratie, c'est quand même le meilleur moyen de s'en sortir. Alfred Sauvy disait, le but de la démocratie, ce n'est pas de rassembler, c'est de savoir se diviser. Et bien sûr, nous ne serons jamais tous d'accord sur tous les sujets dans une sorte d'unanimisme à 65 millions de personnes. Mais savoir se diviser, c'est à un moment donné décider d'un protocole politique avec une majorité qui finalement fait ce qu'elle a proposé dans son programme. Et c'est vrai au niveau de la commune comme c'est vrai au niveau de la nation. Et c'est ça qui est en péril aujourd'hui. Parce qu'il y a les élus qui sont considérés comme des ennemis, les députés, forcément des voleurs incompétents, le président et tous ceux qu'il a nommés gouvernement, et puis les élus qui sont considérés comme des inutiles, les députés européens, les conseillers régionaux.
Les maires étaient appréciés des Français.
Sont préservés encore les maires, que la plupart des Français considèrent comme encore utiles, voire précieux, dévoués, dans un sacerdoce sacrificiel, et en zone rurale, les conseillers départementaux, les cantons. Là, ces deux échelons restent préservés, mais on le voit, la digue aussi est fissurée.
C'est pas rien ce qui est en train de se passer. Et on en parle souvent d'ailleurs dans C'est dans l'air, parce qu'on parlait de l'attitude vis-à-vis des forces de l'ordre, vis-à-vis des stèles qui représentent notre histoire collective. Et là, vis-à-vis des maires qui étaient et qui sont toujours les élus préférés des Français et qui en sont à appeler à l'aide le président de la République pour dire on n'y arrive plus, on est victime de violences, d'incivilités. Il parle des trafics, des agressions. Alors évidemment, on le souhaite et c'est tant mieux, c'est minoritaire dans le pays. Il y a quand même tout un tas de communes dans lesquelles les choses se passent bien. Mais on a franchi une étape là aussi.
Absolument, mais je voudrais quand même dire au passage qu'il y a aussi des maires dans certains coins où justement se développe le trafic, qu'ils ne sont pas très promptes à appeler la police et qu'ils sont plutôt promptes à la neutraliser et à la tenir à distance, et ça sur une durée d'année en année.
Pourquoi ?
Bah, pour assurer la tranquillité globalement dans leur commune, pour être réélus, pour pas que les pots de fleurs soient renversés, pour pas que les feux rouges soient déracinés et que tout le monde puisse dealer en rond calmement et tranquillement.
Vous parlez du trafic de drogue.
Absolument, mais donc il y a aussi des maires qui sont de ce côté-là. Mais j'ai vu qu'effectivement dans cette tribune, dans le journal du dimanche, les maires parlaient du trafic. Ces territoires un peu perdus de la République sont une véritable école là pour le coup de la violence et du rejet de toutes les formes d'autorité où on a des jeunes très jeunes, à l'âge de 10 ans, qui apprennent à brûler des poubelles, et puis ensuite à 12, 13, 14 ans, qui tentent des guet-apens à l'autorité, donc aux policiers, et puis qui ensuite, un peu plus tard, vont devenir des petits caïds patentés et faire leur beurre dans les trafics en tout genre. Tout ça, effectivement, avec un point commun, c'est le rejet total de tout ce qui représente l'uniforme, que ce soit le pompier, le policier, et le maire.
Il y a les trafics, mais il y a aussi les incivilités du quotidien. Avant, on arrivait avec l'écharpe du maire, on était respecté parce que c'était la décision du maire. Et là, ce qu'ils expliquent dans cette tribune, c'est qu'aujourd'hui, leur voix n'a plus de poids. En tout cas, ils en appellent au président pour demander des moyens de faire respecter cette autorité-là.
Oui, parce qu'ils sont aux avant-postes de la République. Donc, si la violence monte dans la société, ils sont les premiers thermostats et les premiers à sentir ce qui est en train de se passer. Ce qui est intéressant, c'est que on a travaillé sur les maires cette semaine pour Marianne, et ce qui nous expliquait, c'est que en fait, ces incivilités montaient d'autant plus qu'il y avait beaucoup de demandes qui étaient presque des demandes domestiques. C'est-à-dire qu'on demandait absolument tout aux maires et que dans le même temps, il y avait eu des lois comme la loi NOTRe, alors qui n'est pas responsable de tout, mais qui faisait qu'une partie du pouvoir des maires passait à l'intercommunalité et donc ils se retrouvaient coincés, les maires, entre d'un côté une demande très forte et qui, si elle n'était pas satisfaite, pouvait déboucher sur des violences, et puis de l'autre côté, leur pouvoir qui était parti dans l'intercommunalité. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une loi qui arrive à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Engagement et proximité, c'est une loi qui vient du grand débat, parce que dans le grand débat, finalement, les maires ont sauvé Emmanuel Macron en le recevant pour les grands débats, donc c'est un peu un geste en retour qu'il leur fait avec cette loi, et ce sera une façon, justement, qu'ils récupèrent un peu de pouvoir pour, justement, pouvoir dire à leur administré, je peux faire quelque chose pour vous. Donc ça peut calmer un peu certaines tensions, c'est pas la panacée, mais ça peut calmer les choses.
Le président qui fera un discours, demain au Congrès des maires de France, et nous revenons maintenant à vos questions. Où étaient les forces de l'ordre quand les caméras filmaient le saccage de la stèle du maréchal Juin ? Ils n'étaient pas loin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
J'ai répondu tout à l'heure, hein, les CRS étaient pas très loin. Après, il y a entre le moment où l'information remonte vers les salles où se gère le maintien de l'ordre, le moment où l'ordre est donné et redescend, ça peut être assez long. Ça peut être assez long. Là, ils ont mis 1 minute 30, mais il faut imaginer le circuit. Je veux dire, un policier, il peut pas décider comme ça d'intervenir tout seul, surtout en CRS, unité constituée. Ils obéissent à des consignes qui viennent de la salle de commandement ou l'autorité civile, politique, à son mot à dire. Donc il faut respecter malheureusement cette façon de faire, et ce qui fait que au final ça peut paraître choquant parce qu'on
voit les images et qu'on a l'impression qu'il se passe rien,
absolument, alors qu'il se passe quelque chose en réalité.
Ouais. Ils ont mieux tenu la place d'Italie samedi que la place de l'Étoile le 1er décembre 2018, ouais. Et les rues adjacentes qui avaient été saccagées, donc voilà, après ils ont contenu mais ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas mis hors d'état de nuire tous ces gens.
Le problème n'est-il pas que ceux qui manifestent pacifiquement n'obtiennent rien ? Les personnels hospitaliers ont manifesté pacifiquement, peut-être vont-ils obtenir mercredi ?
Ils ont obtenu en septembre un plan de 750 millions, ça n'a pas suffi. Et là, Édouard Philippe, avec un président de la République qui a pris la parole pendant la manifestation de jeudi 14, c'est rarissime, c'est le genre de coïncidence, ils vont obtenir des choses. Alors ça sera sans doute insuffisant, ça ne va pas tout régler. Curieusement, et le gouvernement ne se prive pas de le signaler, pour vraiment rétablir l'hôpital, il faudrait 2 milliards. Le coût des gilets jaunes l'hiver dernier sur l'économie française par perte de croissance, c'est 0,1 point, c'est 2 milliards.
Comment voilà. Soubi ? Oui, la manifestation pacifique peut payer ?
Oui, la manifestation pacifique doit payer parce qu'elle peut ne plus être pacifique. Donc si on veut l'empêcher de se durcir, il faut payer. Mais le problème des gouvernements est toujours de savoir s'ils doivent, entre guillemets, céder avant ou céder après. Si dès avant, ça fait baisser la température, mais ça ne résout pas le problème et ils n'ont plus rien à céder après. Dans le cas de la santé, le gouvernement a décidé de céder après. De là, les mesures qui vont être annoncées, mais qui sont quand même, je le rappelle, le troisième plan en quelques mois dans le domaine de la santé, parce que les problèmes de la santé sont des problèmes de fond, des problèmes structurels qui ne sont pas réglés depuis des années et qui ne seront pas réglés par des mesures ponctuelles.
Céder avant ou après, du coup, on se pose la question pour le 5.
Ben pour le 5, le gouvernement a dû réfléchir à savoir s'il doit céder, entre guillemets, négocier avant, avec des résultats ou après. Et puis il y a la variante de certains qui est de dire qu'il doit en dire assez avant pour faire refroidir la température tout en en gardant dans sa besace pour après. Je rappelle, la procédure qui a été arrêtée, c'est que le Premier ministre reçoit les organisations syndicales à partir de lundi prochain. Et forcément, il ne peut pas ne rien leur dire.
Quel système politique les Black Blocs voudraient-ils en France ?
L'anarchie.
L'anarchie.
La fin de l'État.
Une autre question. Quand le climat social français a-t-il été bon ? Quand le climat français a-t-il été bon ?
À part dans des périodes de très grande prospérité, oui. Il n'a jamais été bon. Ah il y a bon des jacqueries tout au long de l'histoire de France sous les rois, il y a des contestations tout le temps, on a une révolution en 1830, en février 48, en juin 48. On est un pays qui fonctionne comme ça. Le tout, c'est de contenir ces contestations dans les limites de la violence. Et oui, si possible, retrouver une expression et une issue politique, et pas simplement un rapport de force.
Christophe Bert me permet un addendum. Oui, mais tout dépend des contestations. Vous avez les contestations françaises permanentes, et puis vous avez les bouffées fortes, qui ont toujours existé dans l'histoire de France, mais qui, heureusement, elles, ne sont pas permanentes.
Et on le est dans une bouffée forte, là.
Et je trouve qu'on est dans une bouffée forte.
Les cabochiens de 1405, les cabochiens, c'était déjà ça.
Oui, les cabochiens, c'était ça.
Oui, il y avait un boucher qui était leur leader. Ils ont pris Paris, ils ont tenu Paris.
On pourrait aussi dire que c'était pendant la guerre de 100 ans. Donc, voilà.
Les violences ne vont-elles pas servir aux autorités pour interdire les prochaines manifestations ? C'est Christian en Dordogne qui se pose cette question-là.
C'est un droit constitutionnel de pouvoir manifester. Donc, on sait que Emmanuel Macron, il s'est déjà posé cette question-là du droit ou pas droit de manifester, mais c'était avant d'être à l'Élysée, c'était au moment où il y avait des manifestations contre la loi El Khomri. On parlait de pouvoir interdire une manifestation, et il avait confié à des proches que si jamais cette manifestation était interdite, à ce moment-là, il quitterait le gouvernement. Donc, ça va être difficile. C'est difficile pour lui, même s'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il change. C'est difficile pour lui d'assumer ce discours-là. C'est très difficile de dire en France qu'on ne peut pas manifester.
C'est tellement français. de manifester.
L'art de manifester.
Il ne faut pas leur interdire.
Bon, allez, les Gilets jaunes donnent-ils à Emmanuel Macron l'envie de se représenter en 2022 ?
Je crois qu'avant ou après les Gilets jaunes, l'envie de faire deux mandats, elle est inhérente à tout président. Mais la crise des Gilets jaunes a ouvert un acte 2 du quinquennat. C'est plus le même président, c'est plus la même politique. Est-ce que cette politique va avoir des résultats et lui permettre d'être réélu ? On est loin, on est très très loin de 2022.
Le gouvernement n'a-t-il pas intérêt à dramatiser ces violences pour créer un écran de fumée sur les retraites ?
Il a intérêt manifestement à la violence, pour la dénoncer, pour que les Français soient contre, et assimile à la violence tous les gens qui manifestent contre le gouvernement.
Justement, cette dernière question, ce climat social violent reflète-t-il l'état d'esprit de la majorité des Français ?
Je crois que de violent, non. Bon. Mais un mauvais état d'esprit, un état d'esprit contestataire, disons, sûrement.
Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h15. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.